Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Radio Okapi qui reçoit pour vous Michel Di, coordonnateur des activités de recherche au sein de DNDI. Avec lui, on va plus parler d'une étude, l'étude anti-COVID-19, on va dire, qui est en cours. Alors Michel Di, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
On parle COVID-19, il y a déjà cette résurgence à laquelle on assiste. Mais parlons un peu de la genèse de ces projets d'études, cette enquête que vous menez sur la maladie à coronavirus, c'est pour quelle finalité?
Alors il faut dire d'entrée de jeu que l'étude anti-COV de DNDI est une étude qui a pour but d'offrir aux praticiens, aux cliniciens, mais également aux malades, une solution innovante, mais également très rapide pour répondre à l'épidémie. En d'autres termes, ça veut dire que avec tous les problèmes que nous ramène la COVID, il faut réagir très vite. Et cette étude a cette particularité d'offrir un outil qui nous permet de lutter efficacement de façon rapide. Alors, un deuxième point très important pour une particularité de cet essai anti-COV, c'est que si vous voyez dans beaucoup de pays, les études sont menées sur les cas graves. On parle des cas graves, Mais les cas bénins, les cas légers, il n'y a pas trop d'essais, il n'y a pas trop d'études pour ces personnes-là. Mm-hmm. Et c'est la particularité d'anti-COV. Parce que si une personne légère n'est pas prise en charge, cette personne fera un jour la maladie dans son volet sévère ou dans son volet grave. Et la partie de cette étude, c'est de s'intéresser à cette catégorie de personnes. Un deuxième point pour cette étude anti-COV, c'est que c'est une étude qui s'intéresse, en fait, qui a été designée pour des pays qui ont des faibles moyens, qui ont un faible plateau technique. Vous savez, la COVID aujourd'hui, si vous suivez les informations, on vous parle des respirateurs, de l'oxygénothérapie. Mais tous ces plateaux techniques ne sont pas trouvés un peu partout en Afrique. Dans certains coins, vous ne trouverez pas ça. Alors, comment un médecin qui n'a pas toute cette infrastructure, comment est-ce qu'il peut aider son patient qui a la COVID? Et c'est dans ces contextes-là que cette étude est menée. C'est également pour aider ce médecin qui n'a pas toute cette technicité derrière lui, mais qui doit aider son patient. Enfin, un dernier point qui est aussi très important, c'est que finalement, avec cette étude anti-COV, la RDC, mais comme l'Afrique en général, participe à la recherche. Donc, les chercheurs africains, les cliniciens africains sont invités, sont partie prenante dans cette étude. Si vous faites des stats, sur environ 1000 études qui sont menées sur la COVID, seules une cinquantaine sont menées en Afrique. Donc, avec anti-COV, on fait participer les chercheurs africains dans ces projets de recherche.
Alors, les projets de recherche en question ciblent quelle population, l'échantillon des bases, c'est pour atteindre combien de personnes exactement et quelle est la durée du projet et quels sont les résultats attendus? Ça fait beaucoup de questions à la fois, Michel.
Alors, en termes d'échantillonnage, il faut dire que cette étude, c'est une étude multicentrique. Cela veut dire que cette étude elle se déroule pas seulement en RDC, mais également dans d'autres. Il y a plusieurs centres. Il y a la RDC, il y a le Kenya, il y a le Soudan, il y a plusieurs centres, une étude multicentrique. Un deuxième élément important dans cette étude, c'est que la taille de l'échantillon global, on a besoin, pour toute l'étude, pas seulement en RDC, on a besoin d'environ 2 à 3 000 patients qui sont attendus. Mais tous ces patients ne seront pas fournis seulement par la RDC, mais également par les autres pays qui sont membres du consortium, les autres pays qui participent à ces projets de recherche. On cible les personnes qui font la COVID, mais des cas légers à modérés. C'est quand même très bien d'avoir un œil pour ces personnes-là, d'avoir une pensée pour des personnes qui ont la maladie dans la forme légère à modérée. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on va les empêcher de faire la maladie dans son étape grave, dans l'étape sévère, mais aussi on va très vite casser la chaîne de transmission. Donc, non seulement ils vont plus contaminer, mais on va éviter qu'ils fassent la maladie à l'étape grave. Et si, par malheur, la personne faisait la maladie dans cette étape, donc la forme est grave, c'est que ça devient plus compliqué, il faut des respirateurs, déjà on n'en a pas assez dans le pays et ça devient très compliqué. Si on suit les informations, on a vu comment les hôpitaux européens aux États-Unis étaient bondés ou on triait même les malades. On évite, cette étude également c'est ça, c'est éviter à ce que l'Afrique, qui n'est pas déjà très équipée, éviter à ce qu'il atteigne ces stades-là, des débordements des patients graves qui viennent dans les hôpitaux.
Il y a une durée pour cette étude?
Oui, il y a une durée. Pour la RDC particulièrement, la période d'inclusion, période à laquelle on va inclure les patients, elle est de 6 mois environ. Donc pendant 6 mois, nous allons inclure les patients. Et les patients, il a une, une durée de 21 jours dans l'étude. Donc, dès qu'un patient est inclus, pendant 21 jours, il est suivi, un suivi rapproché par l'équipe médicale qui est à son chevet en fait. Au moindre pépin, l'équipe médicale est prête pour très vite réagir. Alors, c'est bien quand même de soulever un autre point, c'est que c'est l'aspect innovant de l'étude. C'est une étude adaptative. En fait, une étude adaptative, ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons plusieurs bras qui sont en expérimentation. Mais après, si à un moment donné, on trouve que il y a des molécules qui font preuve d'efficacité, même s'ils ne sont pas dans notre bras, on peut les incorporer dans notre étude et passer à l'expérimentation. C'est quand même très bien. Il est vraiment adaptatif et très vite, on peut faire des recommandations à des politiques pour prendre les meilleures décisions. Aujourd'hui, si vous voyez dans beaucoup de pays africains, nous avons levé des options des prises en charge thérapeutiques par rapport à la COVID, mais il n'y a pas des vrais soubassements scientifiques qui sous-tendent cela. Il n'y a pas un consensus scientifique très clair par rapport à nos politiques à nous. Mais avec cette étude, nous avons cette opportunité de fournir aux politiques des vraies bases scientifiques qui pourront les orienter dans les mesures prises pour le bien de la société.
Quand est-ce que vous comptez publier les résultats de cette étude? Mais comment la population qui est, je dois dire, la cible de cette étude pourra prendre connaissance des résultats de cette étude?
Une des approches dans cette étude, c'est faire participer la communauté. C'est une approche communautaire. Nous travaillons avec des structures, des institutions hospitalières qui sont basées dans les pays, qui fonctionnent dans nos communautés, et nous pourrons faire passer les messages par ces structures-là. C'est une de voies, par exemple. Mais aussi, pour mener une étude, il faut des approbations des autorités sanitaires et des autorités éthiques. On peut également utiliser cette voie-là pour diffuser les résultats de cette étude. Alors, il y a encore un élément très important, c'est que en RDC, par exemple, il y a une structure qui a été mise en place, patronne en fait les activités de prise en charge de la COVID. C'est le secrétariat technique de la Riposte. Donc, on peut également partager nos résultats de la recherche à travers cette communication. Déjà, il faut dire que nous avons des rencontres et nous continuerons à organiser des rencontres avec la commission prise en charge du secrétariat technique pour en fait partager également les résultats de la recherche, partager également les expériences, les difficultés, mais également bénéficier également de leur expérience.
Qu'est-ce qu'on retient succinctement sur l'intérêt des DNDI derrière ces projets?
DNDI, d'abord, il faut dire qu'elle est une ONG, un ASBL de droit suisse, mais dont l'essentiel des activités est dirigé vers des maladies tropicales négligées. Et il faut dire qu'avec ces projets anti-COVID, DNDI réaffirme son soutien et s'y range toujours vers son objectif de travailler pour les maladies tropicales négligées. On a vu qu'avec ces projets anti-COVID, les pays à faibles moyens ont la possibilité de proposer à leur population une thérapeutique avec des bases scientifiques prouvées. Et c'est grâce aux efforts des DNDI. Donc je crois que c'est une occasion, il faut le dire, de féliciter DNDI et de l'encourager sur cette lancée.
Qu'est-ce qu'on peut encore retenir en termes d'informations sur cette étude sur la maladie à coronavirus qui est assez particulière compte tenu de toutes les informations que vous venez de nous fournir?
Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est que c'est une maladie qui nous demande de respecter de façon rigoureuse les gestes barrières. Pourquoi? Parce qu'en respectant les gestes barrières, nous limitons la transmission. Donc j'en appelle à ces consensus au niveau de la société pour prendre conscience que la maladie existe. Et de deux, ce qu'on peut retenir avec anti-COVID, c'est qu'il y a possibilité qu'une recherche soit menée par les Africains, une recherche soit menée par des gens qui vivent avec nous. La recherche, ce n'est pas seulement ailleurs. Mais aussi, il faut dire que avec ces projets de recherche, il y a la possibilité d'une bonne collaboration entre plusieurs parties prenantes dans la recherche. Je dois dire que DNDI coordonne pilote un consortium des chercheurs, un consortium des institutions de recherche. Donc c'est possible de faire un travail ensemble.
Michel Ledi, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.